Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
Un podcast France Culture.
Alexandra Delbeau, bonjour.
Bonjour Guillaume.
Alors ce matin, vous allez nous expliquer comment on peut fabriquer des matériaux résistants à partir d'eau.
Oui, c'est ce qu'on appelle
des os. C'est comme ça qu'on dit, il y a un os.
Oui, c'est ce qu'on appelle la bio-inspiration ou le biomimétisme. S'inspirer du vivant pour construire des matériaux plus résistants, moins coûteux financièrement et plus écologiques. Un exemple célèbre d'architecture copiant la nature s'avère être le joyau de notre capitale, la Tour Eiffel, et le fruit d'une bio-inspiration. Sa structure interne et son treillage s'inspirent de l'organisation de la tête d'un fémur humain. Autre exemple qui allie légèreté et résistance, les os d'oiseaux, cette fois, vont servir d'inspiration pour la création d'une future base lunaire. Et finalement, si les os inspirent autant, c'est parce que leur structure interne et la distribution du tissu sont adaptées à des contraintes mécaniques fortes. Alexandra Houssaï est chercheuse CNRS au laboratoire Mécadev du Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris et dernière autrice de cette étude parue dans Bio-Inspiration and Biomimetics.
Le squelette doit répondre à des contraintes qui lui sont imposées au cours de la vie des organismes. Et donc, pour ce faire, il va le faire de façon économe, parce qu'en fait, ça coûte à l'organisme de devoir entretenir un squelette. Il faut bien s'en rendre compte, c'est coûteux. Chaque mouvement qu'on fait, plus on est lourd, plus le mouvement est coûteux biologiquement pour l'organisme. Donc, l'architecture va s'adapter. Grosso modo, on va avoir dans l'os des tissus qui vont être déposés là où c'est nécessaire pour répondre aux contraintes mécaniques. Donc, l'os est économe et va mettre du matériau que là où on a un véritable besoin. De ce fait, pour la bio-inspiration, c'est vraiment intéressant puisque ce qu'on veut faire souvent quand on crée des matériaux, ça va être avoir un matériau qui va assurer le maximum de résistance pour la quantité minimum de matériaux. Et en ça, ça en fait donc un bon support. Regardez comment est faite la structure osseuse chez différents organismes, selon les contraintes qu'ils subissent, et s'en inspirer pour créer des organisations, des architectures internes qui permettent d'utiliser moins de matériaux pour la construction.
L'intérieur de l'os est composé de travées osseuses qui vont s'orienter différemment en fonction de la contrainte, compression ou tension, comme un quadrillage qui permet de soutenir le poids tout en permettant une certaine mobilité.
Et c'est particulièrement vrai pour la mégafaune, des dinosaures jusqu'aux éléphants. Il doit y avoir des gros os.
Exactement, pour les animaux géants disparus comme le Diplodocus ou le Brachiosaure, le mammouth aussi, ou des espèces encore présentes comme l'éléphant ou le rhinocéros. Parce qu'il faut faire tenir des tonnes et des tonnes de viande debout sans que les os se rompent, tout en permettant de les soulever et donc de marcher. L'enjeu de cette étude est donc d'explorer la structure d'os de la mégafaune et de déterminer lequel ou lesquels seraient les plus adaptés à la construction d'une colonne. Il a donc fallu d'abord faire passer les os des bras ou des jambes au scanner, modéliser les forces en jeu et regarder celles qui résistent le mieux à la compression. Et premier résultat, les meilleurs candidats à la bio-inspiration sont le radius, donc l'os du bras du rhinocéros blanc, et le tibia de l'éléphant.
En comparant nos os, on s'est rendu compte aussi qu'on avait des résultats bien moins bons qu'une colonne pleine. Pourquoi ? Parce que la forme des os, elle n'est pas du tout faite pour résister seulement à la compression. Un os, ça n'a pas du tout une forme de cylindre, ça a une forme très particulière et en fait, ça va casser au milieu parce que c'est pas fait pour ça, c'est fait pour résister à plein de contraintes de nature différente, on bouge, etc. Donc, c'est pas du tout optimal pour juste la compression. Donc, on s'en est rendu compte, bien sûr, mais il fallait qu'on le teste. Et après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une colonne bio-inspirée à partir de la structure du radius du rhinocéros blanc. Et donc, on a pris une colonne en cylindre, mais cette fois, au lieu de lui faire une structure pleine, homogène comme c'est d'habitude, juste remplie du même matériau, là, on lui a fait une structure hétérogène, donc avec trois matériaux inspirés de la structure qu'on avait chez le rhinocéros blanc. Et là, on a obtenu des meilleurs résultats pour la colonne bio-inspirée que pour la colonne de base, ce qui a donc permis de vraiment montrer qu'il y avait un fort potentiel à pouvoir s'inspirer des structures osseuses des organismes lourds pour créer des colonnes qui soient plus légères et plus résistante.
La colonne bio inspirée en 3D à partir du rhinocéros résiste mieux à la compression qu'une colonne classique, et seulement celle inspirée du rhinocéros parce que le tibia de l'éléphant présentait des courbures trop particulières pour que sa structure soit transposable à une colonne. En revanche, rien n'empêche de s'inspirer des deux espèces pour avoir un matériau encore plus optimisé. Et c'est la suite de ces travaux, faire un mix des deux, développer d'autres matériaux qui combinent les performances du radius du rhinocéros à celles du tibia de l'éléphant. Et la seconde poursuite de cette étude, c'est d'étudier plus en détail certaines espèces éteintes de la lignée des rhinocérotidés, parmi lesquelles un rhinocéros géant de la taille des plus grands mammouths qui semble aussi très prometteur.
Merci beaucoup Alexandra Delbault.